Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient un réflexe. Cette semaine, L'art face à 1917, une série documentaire de Perrine Kervran, réalisée par Ghislaine David. Au départ de cette série, il y a un centenaire, ou plutôt plusieurs, celui du Chemin des Dames, du Ballet Parade, de la Révolution russe, de l'urinoir de Duchamp, de la Constitution mexicaine, de l'ouverture de la Galerie Dada, des joueurs de cartes de Léger et des folies de Diego Rivera à Paris. Il y a aussi cette idée que le monde comme il va ou comme il ne va pas touche les artistes et se retrouve en creux ou en relief dans les poèmes des uns ou sur les toiles des autres. Et puis le fait que tout ce petit monde d'intellectuels, de collectionneurs et de créateurs voyage, se connaît, se croise et tombe amoureux dans les galeries, les cafés, les salons ou les ateliers, et qu'on parle autant de peinture que de politique, voire on met l'un au service de l'autre dans la Révolution. Alors pour commencer, les personnages. Une historienne enthousiaste, une autre qui voudrait tout dire, un spécialiste de Malevitch, un historien à cheval entre Paris et Mexico, un autre qui est tombé sur une histoire de fou, une commissaire inspirée, des artistes et un collectionneur. Ensuite le décor, les cités d'artistes de Montparnasse, des impasses avec lilas et mésanges, des porches, des rues, des traces ténues mais tenaces, une exposition inoubliable, un palais-musée, la Russie et le Mexique. Aujourd'hui, 4e épisode, on n'est pas loin de la tour Montparnasse.
Marie Vassiliev est une toute petite et charmante vieille dame qui est bien connue de tous les vieux parisiens. En effet, qu'est-ce qui a été plus célèbre qu'elle pendant toute la période qui a séparé les deux guerres, dans tout Montparnasse et même dans tout Paris? Marie Vassiliev a fait toujours une peinture absolument charmante, à la fois si slave et si moderne, si ingénue et si raffinée. Elle a peint des belles icônes à la manière de sa vieille mère Russie, avec des auréoles en papier peint, et elle a été aussi très célèbre par les poupées-portraits qui représentaient les gens les plus célèbres de tout Paris, qui étaient d'ailleurs tous ses amis, Paul Poiret, Jean Cocteau, Sandrard, Max Jacob, et bien entendu, pour commencer, son premier patron Matisse. Eh bien Marie, écoute, raconte-nous ton arrivée à Paris à 18 ou 20 ans.
J'ai décidé d'aller à un salon d'automne. D'un coup, mon œil était attiré par un tableau grandeur très modeste et qui s'était écrit Henri Matisse. C'était le poisson d'or qui a nagé dans le bocal en cristal entouré de capucines jaunes et rouges comme le feu. Oh, j'ai dit, bon Dieu, comme c'est joli. Voilà les peintures que j'aime.
Les artistes, soldats de la Révolution. Donc on est entré par le numéro 21 de l'avenue du Maine et donc on laisse derrière nous l'autoroute qui passe sous le tunnel, qui passe sous la tour Montparnasse, et on est entré dans une impasse parisienne comme il y en a quelques-unes, avec des ateliers, il y a des bambous, du lilas, des buissons, on est au printemps donc c'est en plus très fleuri. Et alors ici, c'est désormais la Villa Vassiliev, mais c'était un endroit très vivant, très important, en 1917 et avant, dans les années 10 à Paris, Marija Podzorova.
Oh oui, c'était l'endroit, c'était créé par Marie Vassiliev, donc Maria Vassilieva qui était l'artiste russe, qui est venue à Paris en 1905. Enfin, pour étudier ici donc l'art, enfin sur la bourse impériale. Il vivait avec Sonia Terk, qui on connaît mieux, enfin Sonia Delaunay. Et puis à partir de 1909, elle commence à être de plus en plus connue. Elle participe au salon d'automne ou au salon des indépendants. Et donc à partir de ce moment-là, il crée une académie Vassiliev. Bon, c'était d'abord l'atelier où il propose des cours. Il y a deux ateliers, donc il y a l'atelier de peinture et l'atelier de sculpture. Il n'y a pas vraiment d'enseignement. Enfin, en fait, les gens sont libres de venir et de créer eux-mêmes. Le coût était assez faible, mais bon, après, il y avait des balles. des lectures aussi, des conférences. Par exemple, ce qui est intéressant aussi, qu'en 1913, il y avait Anatoly Lunacharsky, qui ensuite devient le narkomprost, le commissaire du peuple à l'éducation de l'Union soviétique. Lui, il est venu ici pour faire la conférence sur la peinture nouvelle française. C'était sur le cubisme surtout, c'était un peu le lieu de fréquentation pour les Russes et aussi pour d'autres nationalités. C'était un peu le cercle cubiste, ce qui se réunissait ici pour les bals ou pour les soirées. Après, il y avait d'autres nationalités, les Suédois, les Anglais qui venaient aussi. Donc, léger comme Braque, Picasso, il fréquentait ces endroits constamment.
Picasso venait juste de descendre là en butte. Et il a pris un atelier rue Schellcher, il est devenu montparnassien.
Ossip Zadkine.
Il venait au Café du Dôme avec sa pipe, s'installait avec sa femme espagnole. Et il regardait, il n'était pas plus âgé que nous. Nous étions à cette époque-là tous jeunes. Il n'avait pas un seul vieillard parmi nous. C'est ça qui était extraordinaire. Et Montparnasse n'était qu'y rempli par des jeunes chiens. Et tout le monde était un jeune chien. Et aboyait. Et travaillait aussi. On rentrait à la maison, on travaillait.
Et comment est-ce qu'on explique, Maria Podzorova, que autant d'artistes russes soient venus en France, à Paris, entre 1904-1905 ?
Paris était toujours attirant pour les Russes. C'était un peu le centre de culturel et artistique dans l'imaginaire en russe. Il faut noter qu'il y avait deux vagues, en gros, de migration. Si on parle de la première période, avant la guerre, il y avait deux vagues de migration. C'était 1905-1908. Et 1909, à peu près, c'est la première vague. Bon, du coup, Vassiliev fait partie de cette vague-là. Et puis ensuite, il y a une autre vague de 1911 à 1912. Voilà, du coup, 13, c'est vraiment la dernière année où arrivent beaucoup de gens. Chagall, Tatlin, les constructivistes, il y avait beaucoup. Donc, il y avait Udaltsova, Rosanova, donc c'est... qui sont tous passés par ici parce que, justement, c'était le lieu où on pouvait acquérir de nouvelles connaissances.
J'ai rencontré Trotsky. Trotsky, c'est Corbeau, un homme fantastique qui a dirigé les socialistes russes pour préparer la guerre, la révolution en Russie. Il est venu chez moi un jour quand j'ai donné un grand concert de Vinès.
Ricardo
Vinès. Alors, avec une bande de 12 personnes, l'air au fond brutal, enfin, il me demande, Marie, est-ce que tu me donnes à manger? Je dis, il n'y a plus rien à manger, il n'y a que des sandwichs que je peux vous servir. Alors je lui prépare les sandwichs, il boit Trotsky, il boit vodka. En tout cas, il commence à faire le discours sur la politique. Ah, je dis, non, alors ici, c'est la cantine des artistes, on ne parle pas de politique, va dans la cour, fais tes discours, et fiche-moi la paix, je ne veux pas de ça.
Alors il y a la grande histoire, celle avec bataille, tambour et trompette. Celle où l'on croise les révolutions, les guerres et les courants artistiques, celle où l'on entend sonner Verdun, Saint-Pétersbourg, Pancho Villa, le cubisme, le suprématisme, Vasconcelos, Lunacharsky et le muralisme. Et puis il y a les petites histoires, celles qui tissent la trame de nos vies quotidiennes et ordinaires et qui vont nourrir et préparer discrètement, au point qu'on l'oublie parfois, le terrain de la grande. Alors ça change tout. Quand on sait que les idées, les amours, les disputes et les rivalités circulent de l'un à l'autre. Quand on sait que Diego Rivera a eu une histoire d'amour avec une peintre russe à Paris et fréquentait du coup les futurs révolutionnaires, mais aussi l'atelier de Picasso dont il était l'ami quand il ne donnait pas des gifles à son rival, Pierre Reverdy. Alexandre Zouf, on est là, cité Falguière, donc une petite impasse qui donne sur la rue Falguière. Et on est devant ce qui reste une grande cité d'artistes. Et puis une petite inscription en rouge, comme un graffiti. Donc dans cet atelier, habita le peintre Chaïm Soutine. Mais il n'y avait pas que Soutine qui habitait là.
Non, cette cité d'artistes, en effet, était une véritable ruche, on peut le dire. Une ruche qui abritait dans un quartier très populaire de l'époque un certain nombre d'artistes sans le sou, et parmi eux quelqu'un qui est arrivé toute fin décembre 1908 ou tout début janvier 1909 et qui s'appelle Alexandre Zinoviev. où il se lie rapidement avec un certain nombre de collègues, et notamment avec Angéline Bielhoff, qui n'est autre que l'épouse de Diego Rivera. Et donc, il a passé quelques années dans cette cité Falguière, et c'était des années fondatrices et formatrices. Fondatrices parce qu'il s'est pleinement intégré à la bohème de Montparnasse, et puis fondatrice également et formatrice parce qu'il a peaufiné sa manière très particulière de peindre et de dessiner, à la fois profondément russe, subissant l'influence des avant-gardes, en même temps totalement personnelle, avec un certain mysticisme, un certain lyrisme. Et donc il a été reconnu assez précocement, mais comme un artiste qui avait sa propre patte singulière qu'on pouvait reconnaître. Et puis il y avait cette amitié singulière avec Diego Rivera, qui a peint son portrait en 1913, le premier portrait cubiste de Diego Rivera, qui s'appelle L'Artiste, est en fait un portrait d'Alexandre Zinoviev. Et inversement, Zinoviev, en 1913 toujours, a peint un très beau portrait, majestueux en tout cas, de Rivera.
Comment se développe cette amitié? Quels sont leurs rapports?
Cette amitié, elle passe d'abord par la femme de Diego Rivera, qui est russe, Angelina, Angéline Bielhoff, qui est elle-même peintre, plasticienne. Elle est un peu la coqueluche de la bohème moscovite. Il devient, d'une certaine manière, la coqueluche d'un tout petit milieu de Russes de Montparnasse, dans lequel fait son entrée de manière fracassante Diego Rivera, dont on connaît la personnalité exubérante, l'affirmation de soi, etc. Et ils se prennent d'affection mutuelle et aussi, je pense, de respect par rapport à la manière qu'a l'un et l'autre, non pas seulement de peindre, mais aussi de réfléchir à la remise en cause par l'avant-garde de toutes les structures traditionnelles de représentation picturale. On est dans une France qui vient de subir la révolution des ballets russes en 1913, dans une France qui a vu affluer les Larionov et Gancharova, puis Chagall, Soutine, et pour qui donc le fait même d'être russe, de venir de ces confins orientaux de l'Europe, qui sont mystérieux, qui sont nimbés de cette aura de la pseudo-âme slave, ça suffit. Zinoviev, il vit une véritable double vie, voire même une triple vie. En fait, il s'est trouvé que, après des recherches dans les archives, j'ai trouvé donc que Zinoviev était un agent de la police secrète tsariste qui avait été envoyé à Paris pour espionner un révolutionnaire et lui rendre visite tous les jours. Et à ce titre-là, il percevait 500 francs par mois, ce qui était une somme assez rondelette à l'époque.
Mais tu as connu Lénine aussi.
Lénine, j'ai connu
à Paris, toujours à Paris.
C'était un homme tout à fait autre chose. Il a eu le grand front. Ses yeux qui brillaient de cette lumière vraiment qui n'est pas de ce monde, qu'il a été d'une bonté fantastique. En tout cas, c'était un saint pour moi. À la fin, n'est-ce pas, il a voulu préparer cette révolution mystique en Russie où tout marche par l'amour et par l'affection et l'amitié pour tout le monde.
Mais comment as-tu connu Lénine alors?
Lénine, il faisait la conférence pour le peuple français à Place d'Italie, dans une baraque où beaucoup de vitres ont été cassées. Et pour commencer, quand elle a commencé à faire ses conférences, il y avait le chahut formidable. On a sifflé, on a craché, on n'entendait plus rien. Enfin, il a décidé de faire une conférence qui s'appelait « La vie, la prostitution et l'amour ». Alors voilà, une conférence très importante.
У нас в России таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации, советы, и эти советы передаются вся государственная власть.
Alors là, Anne Baldassari, on a de la chance, on est donc à la Fondation Vuitton, mais on est seul, l'exposition Tchouchkine est finie. Et il y a un portrait de Sergueï Tchouchkine qui nous fixe de ses yeux, il est extrêmement présent, on a l'impression voilà, d'une personnalité très forte. Comment est-ce qu'il devient collectionneur, puis comment son goût se fait?
Alors, les quatre frères Tchouchkine sont tous collectionneurs et le sont avant lui. Et chacun a son secteur de collection. Et au cœur de cette fratrie, Tchouchkine, lui, va choisir l'art contemporain de la scène parisienne. Et c'est cette scène parisienne qui va le passionner. Alors, il y a à la fois un aspect d'intérêt, de choix, et puis une inquiétude, parce que plusieurs grands scandales avaient marqué non seulement l'histoire de la collection de ses frères, mais l'histoire des collections russes, souvent, des grands collectionneurs russes ont acheté des faux. Ils n'étaient pas connaisseurs. Et justement, les connaisseurs, parfois associés aux marchands, avaient pu leur vendre pour des œuvres authentiques, des œuvres qui étaient des reproductions ou des faux. Et on voit bien que face à cette difficulté de grands bourgeois qui se sont auto-promus par des activités commerciales, le grand capitalisme, proto-capitalisme de la fin du 19e, ce défaut culturel les place dans une situation de sorte de vulnérabilité, de fragilité, et ils se ridiculisent. Donc, faire le choix d'un art en train de se faire, de l'art qu'on voit peindre à l'atelier, d'une peinture qui a encore le parfum de la térébenthine et de l'huile de lin, c'est une sorte de garantie de véracité, d'authenticité. Quand il arrive à Paris en 1898, c'est un moment clé. Il rencontre Paul Durand-Ruel, qui est un grand marchand des impressionnistes de l'école de Barbizon, et c'est lui qui va lui servir de guide. Ce sera son mentor pendant toute une période. Donc, il va découvrir chez lui Monet, mais aussi bien d'autres artistes. Puis, de Durand-Ruel, il ira vers Vollard, et de Vollard vers Picasso et Matisse, Matisse, Picasso, Lechstein. Donc, on a une sorte de filiation, de chaîne comme ça, d'opérateurs et de mentors de Tchoukine. Il venait à Paris au moment du Salon d'automne, donc à l'automne, entre septembre et novembre, souvent. Il y revenait au moment du Salon des Indépendants au printemps. Il y repassait en juin-juillet, qui était le moment où il soldait tous ses comptes, parce que c'était une sorte de comptage annuel. Donc c'est le moment où il payait les artistes et les galeristes, en général. Et il y passait quand il était en route, en général, vers la Riviera française ou la Riviera italienne.
Et pourquoi est-ce que Tchoukine décide d'ouvrir sa collection au public ?
Le choix de Tchoukine de faire une collection de musée donne une perspective très particulière à sa collection. Non seulement il collectionne contre son goût, mais il va collectionner pour les autres. Et ce sont ces deux paramètres qui font l'intérêt de cette collection. Elle est représentative de ce qui serait ce creuset culturel où on est en train, à plusieurs mains, parce qu'ils sont plusieurs à y travailler, d'inventer un nouveau monde, de nouveaux référents, de nouveaux critères, nouvel espace visuel, lui, cette modernité qui est en train d'advenir et que eux-mêmes perçoivent plus ou moins. Il va finir comme un grand provocateur. En Russie, les gens vont se battre dans ces salons, attaquer les œuvres, déchirer des pages d'ouvrages. On est quand même dans les années 1910, les gens viennent rire chez lui, viennent se battre chez lui, c'est un pugilat permanent, c'est un abîme qui s'est ouvert sous ses pieds. Comment savoir s'il avait fait les bons choix? Il n'en savait absolument rien. Dans une de ses lettres à Matisse, qui date des années 1908-10, je crois qu'il lui dit, c'est quasiment textuellement, il y aura des rires, il y aura des pleurs, mais vous triompherez et moi avec vous.
Scandale à Paris, en 1913, après la représentation du ballet Le Sacre du Printemps, mis sur pied par Serge Diaghilev.
Il y a deux hommes qui s'attrapaient tellement et qui s'injuriaient tellement que celui qui était au dernier rang du balcon a pris l'autre pendant et il l'a fait basculer par-dessus le devant de la loge. Alors ça a été une pagaille, c'est déjà bien beau qu'ils ne soient pas dégringolés jusqu'à l'orchestre. Enfin, il y a des flics qui sont arrivés, tout ça s'est arrangé. On a emmené tout le monde au poste et on les a calmés comme on a pu.
Diaghilev me raconta que dans sa loge, il y avait Puccini. Il s'adressa à Diaghilev en disant « Je n'attends plus rien. » Debussy, également qui était à cette première, disait qu'il ne comprend plus rien. En 1913, mariage de l'art occidental avec l'art oriental.
Jean-Claude Marcadet, est-ce qu'on peut dire que Serge Diaghilev a eu un rôle aussi dans la façon dont la Russe et la culture russe a été mise en avant à Paris ?
Diaghilev est un génie. Comme organisateur, il était à l'affût de tout ce qui était nouveauté. Et donc il a fait venir bien sûr les artistes russes, mais il a utilisé également les artistes sur place, les artistes français par exemple. On pourrait presque faire une histoire de la peinture russe entre 1909 et 1914 de tout ce qui s'est fait en Russie qui ont été montrés au théâtre. Alors en 1914 en plus, il fait appel à Natalia Goncharova, qui avait eu une exposition très marquante avec son compagnon Mikhail Larionov, que Apollinaire avait préfacé. Donc il fait appel à elle pour le Coq d'or de Rimsky-Korsakov, et ça a été un éblouissement total. Il y a eu une mode, on ne peut pas s'imaginer, une mode russe grâce à Diaghilev, qui s'est manifestée non seulement dans les arts, mais également dans la mode.
C'est vraiment impressionnant, oui. Tous ces tableaux qui résonnent en plus les uns avec les autres.
Je peux peut-être vous dire un mot là-dessus. On peut voir ici ce grand mur de cubisme avec trois Picasso de 1908 et 9, et puis un braque, le seul braque de la collection Tchoukine. Mais ce mur est organisé autour de ce petit tableau, alors qui est une petite échelle, mais monumentale, par ce qu'il évoque, est extrêmement important. C'est donc une peinture qui fait partie d'une série de trois qui sont peintes à Horta de Ebro, où Picasso passe l'été en 1909. Le cubisme se définit au retour de Horta de Ebro. Ce qui est important dans cette peinture, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur les tableaux de cette période, et que très tôt, j'ai considéré qu'elles appliquaient les règles de la perspective des icônes byzantines orthodoxes. Et en travaillant pour cette exposition, j'ai pu vérifier qu'une grande exposition organisée en 1906 à Paris par Serge Diaghilev, avant qu'il devienne entrepreneur de théâtre, quelques années avant, il était très proche de ce qu'on appelait une grande revue qui s'appelait Le Monde de l'Art. Il organise une expo à Paris avec 750 peintures russes. Il y avait 50 icônes russes qui sans doute ont été présentées pour la première fois à Paris, et l'impact que ces icônes ont eu sur Picasso, sur Matisse et sur les avant-gardes françaises en général est extrêmement important, et ce tableau est l'un des points de démonstration. Si vous regardez une icône, vous dites, mais que dit-elle? Oui, d'abord, les effets de mes plats, le facetage, on a des perspectives contradictoires, l'espace se creuse ou s'incurve, donc il est convexe ou concave, et tous ces phénomènes de déformation optique, de sténographie et de symbolisation sont transposés dans le langage moderne, issus d'une grammaire picturale qui vient des icônes byzantines. Et c'est très important parce que les avant-gardes russes, qui, elles, portent cette culture, vont trouver chez Picasso le levier pour se réapproprier leur propre culture. On traverse l'espace et le temps culturel, et c'est à nous quelque chose qu'on va retrouver chez Malevitch, chez Rodchenko, chez Tetlin.
C'est-à-dire qu'ils ont assimilé tout cela, ils ont reçu un choc de toute cette peinture venue des bords de la Seine, mais en même temps, ils avaient un fond qui était différent. Un substrat plastique qui était différent. D'abord, c'est la peinture d'icônes, qu'il soit orthodoxe ou pas. Et l'icône, c'est quand même un art tout à fait différent, qui justement n'est pas un art réaliste, qui est un art donc qui crée un monde purement, disons, pictural et purement spirituel. Et l'art populaire, qui est un des plus riches, l'art populaire des Russes et Ukrainiens, c'est un des arts les plus riches, jusqu'à présent d'ailleurs, de tous les peuples européens, ou eurasiens, disons. Alors que les peintres comme Picasso ou Braque sont partis du tableau de Cézanne, et ont introduit dans le tableau de Cézanne l'art africain, l'art ibère. Les Russes, eux, ils sont partis, pas du tableau civilisé de Cézanne, ils sont partis de l'icône, des enseignes de boutique, des images populaires. Et c'est à partir de cette base structurelle primitiviste qu'ils sont venus greffer Cézanne et la suite.
On est dans cette salle de confrontation ici, qui est bâtie autour de deux tableaux de Picasso, La fermière de 1908, debout et en buste. C'est une salle assez audacieuse qui nous permet de voir comment Malevitch et Rodchenko ici, mais aussi Goncharova, Popova, Von Ukliun, vont dialoguer, se nourrir de la peinture de Picasso en particulier, parce que c'est quand même Picasso qui va constituer le socle, Cézanne, Picasso, et on a les Russes qui viennent vraiment construire leur propre proposition picturale. Au terme d'un passage où ils vont être, oui, fauves, cubistes, primitivistes, etc., etc., sur les pas de ces grands artistes français qu'ils découvrent dans la galerie de peinture Tchoukine à partir de 1908 et qui est le lieu de leur lieu de formation. On a d'ailleurs des commentaires. Le directeur de l'Institut d'art de Moscou interdisait aux élèves d'aller voir la galerie Tchoukine parce qu'il disait ils seront pervertis. Et on a les témoignages de ceux qui ont osé aller transgresser cet interdit et qui vont devenir les principaux protagonistes des avant-gardes russes. Et puis, toutes ces jeunes peintres, jeunes femmes peintres, de Goncharova, Stepanova, Rosanova, c'est Tchoukine qui les accueille, c'est Tchoukine qui les guide dans sa collection, c'est Tchoukine qui leur explique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qui se passe dans ces salles du Palais Trubetskoy est un débat très vivant entre la peinture qui arrive de Paris, ce collectionneur militant qui s'invente commentateur et théoricien, et ces jeunes artistes qui vont dialoguer pratiquement terme à terme avec chacun des tableaux au fur et à mesure de leur arrivée à Moscou. C'est très vivant, c'est très rapide. On voit dans l'exposition cette accélération, la manière dont Malevitch va passer du primitivisme au cubofuturisme en quelques mois parce que tel tableau arrive et puis ensuite au cubisme. Et cette accélération, elle est passionnante parce qu'elle nous permet de mesurer pourquoi Tchoukine va se mettre à acquérir d'une manière complètement nouvelle, très très rapidement. Il va acquérir 30 tableaux de Picasso en 2 ans. Ça ne peut pas s'expliquer si derrière on n'a pas la pression dévorante, la faim dévorante de ces jeunes peintres. Ce sont eux qui veulent que Tchoukine achète. Et il achète pour eux.
Mais mon père a aimé Cézanne. Il a formé partie de ce groupe qu'on appelle le Rue de la Gaieté, avec tout cet homme qui sont fantastiques dans le monde de l'art.
Guadalupe Rivera.
Parce qu'il a fait la création de l'écobisme avec Braque, Picasso et Juan Gris. Extravagant. Oui, faire le scandale et de faire de dire les choses terribles pour épater les bourgeois. Il est communiste pour épater les bourgeois, oui.
Bonjour.
Je vous en prie.
On est là dans ce qui était l'atelier d'André Lhote.
Oui, ce qui était tout à fait l'atelier d'André Lhote. On voit encore les 6 messes d'origine, ici. Et ici, pour accrocher les grandes toiles. Et là, on voit la double porte battante pour sortir justement les grandes toiles. On pouvait ouvrir en haut, on pouvait ouvrir en bas. Et les grandes toiles pouvaient sortir d'un seul tenant par les fenêtres. C'est assez grand. Hein. Il doit y avoir quelque chose comme 80 mètres carrés, je pense, au sol, en bas. Vous devez en avoir 40 en haut.
Oui, c'était des lieux de travail. C'est vrai, ouais. Qu'on imagine volontiers, là, une dizaine d'artistes réunis jusqu'à pas d'heure en train de réfléchir à ce que pouvait être le cubisme de demain. Et donc, on est avec vous, Anna Cecilia Ornedo-Marin, dans cet atelier qui abritait André Lhote et aussi Diego Rivera. Comment Diego Rivera s'est mis à fréquenter la communauté des artistes russes parisiens?
Il arrive à Paris par première fois en septembre de 1911. Quand il était déjà étudiant, il avait toujours l'envie de venir et voir les écoles d'art en Europe. Et c'est ici qu'il va être en contact avec Maria Blanchard. Et c'est elle qui va l'introduire, et plus précisément, à Angelina Beloff, qui sera sa femme et que c'est la personne clé pour que Diego Rivera est dans ce monde intellectuel, artistique, slave de ces années-là. Il était toujours admirateur de Picasso. Sans jamais oser aller à son atelier, c'est même Picasso qui a dit « S'il ne vient pas à moi, c'est moi qui vais être obligé d'aller le chercher ». On raconte qu'il ne faisait autre chose que peindre, qu'il était tout le temps dans son atelier. Il va rencontrer aussi à Ili Ehrenberg. C'est à lui qu'on doit la création de ces mythes de Diego Rivera. On l'appelait aussi el vaquero mexicano, c'est-à-dire les cowboys mexicains. C'est ici qu'il fait les anecdotes, qu'il mangeait des enfants. C'était un personnage très grand. Grand, donc où il arrivait, et il impressionnait déjà par sa bonne physique.
On le surnommait le bon anthropophage.
Exactement, et c'est lui-même qui s'efforçait cette idée, et d'ailleurs, il le nomme l'Indien sauvage. Il s'est battu aussi, je ne sais pas, mais au Mexique, Diego Rivera avait toujours une pistole à son côté.
En 1914, la guerre vient gâcher la fin de l'été. Les affiches sur les murs annoncent la mobilisation et certains artistes étrangers qui hantent Montparnasse se sentent une dette. C'est le moment de solder les comptes et de donner des preuves d'amour. Alors ils le disent, toute hésitation serait un crime. Et ils expliquent que les étrangers, amis de la France, qui pendant leur séjour en France ont appris à l'aimer et à la chérir comme une seconde patrie, doivent sentir le besoin impérieux de lui offrir leurs bras. Il s'agit donc bien d'amour.
Le coup de tonnerre de la guerre arrive et là, les étrangers, ils se retrouvent tout à coup seuls. Ils se retrouvent seuls sans leurs copains, ils se retrouvent seuls sans les galeristes, ils se retrouvent dans un marché qui n'existe plus où l'Allemagne joue un rôle assez important. Et c'est sur ce fond de crise et sur ce fond aussi d'enthousiasme patriotique que deux artistes étrangers, un Suisse et un Italien, à savoir Blaise Sandrars et Vittorio Canedo, lancent leur fameux appel aux artistes étrangers, très lyrique. Et donc Zinoviev, évidemment, prend connaissance de cet appel qui est signé par un certain nombre d'artistes originaires de l'Empire russe. Il a d'abord passé quelques mois à la Légion. Lorsqu'il est versé dans le corps expéditionnaire russe en France. Et il participe au début de l'année à la fameuse offensive Nivelle, ce qu'on appelle en France le chemin des dames. Ça, c'est le contexte, on va dire, proprement français sur le front. Et puis, il y a un contexte international qu'on connaît, c'est l'abdication du tsar, le 15 mars de notre calendrier, l'abdication de son frère, le 16 mars, et donc le fait que la Russie entre dans une sorte de no man's land politique, de révolution permanente, de révolution aussi quotidienne, qu'on cache d'abord aux soldats, de ce corps expéditionnaire russe, mais ensuite les soldats sont mis au courant, d'une part par les révolutionnaires russes en France, qui viennent les informer, et puis ensuite on est obligé officiellement leur communiquer la nouvelle de l'abdication du tsar, et à ce moment-là les soldats de ce corps expéditionnaire se mettent en rébellion, ou plus exactement, veulent eux aussi faire leur révolution, qui est la révolution de la discipline, former des comités de soldats, etc. Et là, changement de pied de Zinoviev par rapport à sa jeunesse, loin de ses convictions socialistes. Au contraire, dans son carnet, il éprouve une certaine méfiance vis-à-vis de ce jeu de la révolution, de cette pantomime qu'il n'apprécie pas du tout. Il critique cette liberté à tout va et la chute de la discipline. Donc on voit bien que Zinoviev, non seulement avait sans doute des convictions socialistes peu marquées, mais que sa fréquentation permanente de l'état-major et d'une certaine élite russe l'a aussi fait passer du côté conservateur, on va dire, de cette communauté assez importante en France.
Vous avez parlé de sa correspondance avec Diego Rivera. Quel genre de lettres il recevait ?
On ne sait pas si on a l'intégralité de sa correspondance conservée, en tout cas de ce qu'il reste dans les archives privées de Zinoviev. C'est notamment une très belle lettre de ce moment charnière dont je parlais tout à l'heure, qui est celui de cette fin août 1914. Zinoviev a déjà fait son voyage en Italie en 1912 et 1913. Donc on voit dans son œuvre l'influence du Quattrocento italien. Et il avait prévu de longue date avec les Rivera d'aller peindre, comme ça se faisait à l'époque, au soleil du sud et notamment au Baléares. Il y a une longue lettre de Rivera qui explique à Zinoviev quel est l'itinéraire pour le rejoindre, qui détaille même le prix des trains, des bus, etc., qui lui donne les mots en espagnol pour pouvoir se diriger. et qui mentionne quand même au passage la guerre en disant « Oui, je me sens, c'est vrai, un petit peu mufle de ne pas participer, mais qu'après tout, il y a bien d'autres personnes que lui pour jouer les héros. » Et puis il y a une autre considération intéressante qui dit que dans ce chaos nouveau qu'est la guerre, dont il perçoit les échos du fin fond des Baléares, surgira probablement une nouvelle manière de représenter la guerre. Et il mentionne le nom justement de Uccello, un peintre dont ils avaient parlé au sujet des fameuses représentations de scènes de bataille.
Depuis l'octobre 17, il s'était passé déjà des événements très graves à l'intérieur des forces politiques de la Révolution. Mais le visage extérieur de Moscou ne le révélait pas aux yeux des croyants qui venaient de loin. La ville apparaissait au contraire comme transfigurée par la libre initiative des artistes d'avant-garde et des étudiants. Les rues principales étaient pavoisées avec de grandes images, surtout satiriques, et par des écriteaux dans les principales langues étrangères. L'université a été à toutes les heures du jour remplie de jeunes ouvriers et paysans et de jeunes filles qui manifestaient une joie de vivre qui, de toute évidence, n'était pas de façade. Il n'en fallait pas plus pour nous convaincre que nous assistions à la naissance d'un nouveau monde dans les termes de l'ancienne utopie. Voilà enfin une nouvelle terre et un nouveau ciel.
Et est-ce qu'on sait, justement, Ana Cecilia Ornedo-Marin, si Diego Rivera se tenait au courant de ce qui se passait au Mexique, s'il gardait un lien quand même avec le Mexique pendant sa période parisienne ?
C'est très, très difficile parce qu'on voit à travers de sa peinture qu'il est plus lié à ce qui s'est passé en Europe et aussi très lié à ce qui s'est passé en Russie. C'est ses grandes inquiétudes. Néanmoins, il était aussi au courant, à travers Alfonso Reyes, sur le Mexique, et aussi Martin Luis Guzmán. Je pense que lui, il était un moment clé pour Diego Rivera pour comprendre la lutte populaire. Parce que lui, il était proche de Pancho Villa. Et quand il vient, c'est lui qui va lui dire qu'est-ce qui est en train de se passer au Mexique. Et donc, c'est après de ces visites qu'il va faire un des tableaux plus célèbres que ce paysage zapatista en 1915, où on va reconnaître déjà la lutte qui est en train de se vivre au Mexique. Ces tableaux, il y a des éléments comme un fusil, comme un sombrero, propre du zapatisme, aussi de la lutte du Nord, mais aussi un sarape. Le sarape, c'est le poncho, mais ça, c'est propre du Nord, de la lutte de Pancho Villa. Donc, on voit que aussi à l'intérieur de ces tableaux, on peut voir les luttes agraires, aussi bien du Nord que du Sud.
C'est une révolution, c'est pas peu de choses. Et la révolution mexicaine, elle a duré longtemps, hein, bien plus que la révolution russe, on oublie ça.
Serge Fauchereau.
Ce qui s'est passé, les guerres, les trains qui se heurtent, les coups de main, Zapata, Pancho Villa et tous les autres, les assassinats successifs des présidents, c'est tout de même très important du point de vue historique de l'histoire militaire, de l'histoire sociale. Voilà, donc... Oui, 1917, c'est aussi une année mexicaine. C'est très intéressant parce qu'à ce moment-là, nous, on est dans la deuxième partie du cubisme et que le cubisme a toujours été un mouvement apparemment d'esthètes, c'est-à-dire de gens qui n'ont pas de rapport avec les événements sociaux. Picasso, Braque, même Léger encore... n'ont pas de rapport avec ce qui se passe dans la France ou dans le monde ailleurs. Certains ont rendu compte un peu de la guerre, je pense à Fernand Léger et à de la Freinet, mais ce n'est pas vraiment leur affaire. Tandis que là, avec Diego Rivera, c'est la révolution qui, entre dans le cubisme. Et ça, c'est tout à fait nouveau, et c'est un apport assez considérable de Rivera, que Paris n'a pas vraiment évalué à sa juste valeur au moment où il a présenté ses tableaux dans les galeries parisiennes.
Et alors, qu'est-ce que 1917 a changé, justement, dans ses circulations, dans la présence de ses artistes et dans la façon dont ils communiquaient ou pas avec Paris et avec les avant-gardes européennes?
Ceux qui étaient restés à Paris, ils y restaient. C'est le cas de Natalia Goncharova et de Mikhail Larionov. Ils ne sont pas des exilés, mais ils sont restés. Ils ne sont jamais revenus en Russie soviétique. Ou bien, ils ne pouvaient pas, en tout cas, les artistes qui étaient en Russie et qui ont créé à cette époque-là, donc il y avait le suprématisme de Malevitch, mais il y a à ce moment-là est né en 1921 le constructivisme. Et il n'y a plus de circulation qui allait de la Russie vers l'étranger. Ça commençait déjà un régime dictatorial, disons, qui est devenu monstrueux avec Staline après la mort de Lénine. Mais déjà, jusqu'en 1924, il y a eu aussi impossibilité d'aller comme on allait avant, facilement en Occident, de faire un aller-retour. Il fallait passer par des procédures administratives longues, etc., et des vérifications.
Donc là, on est face à Anne Baldassare, à cette grande reproduction de photos, une photo en noir et blanc, on dirait finalement plus un négatif qu'une photo, à vrai dire. Et on voit ces tableaux, effectivement, là il y a 6 tableaux qui sont accrochés très près les uns des autres, les cadres se touchent quasiment, et puis on est dans un salon, on voit, est-ce que c'est du carrelage ou du parquet? En tout cas, il y a des fauteuils qui sont couverts, on voit qu'il y a des fresques au mur.
C'est du carrelage. Alors en fait, ici, on est dans des photos qui datent de la période 1918-1920, au moment où Tchoukine a déjà quitté la Russie, et donc il part en exil de manière d'ailleurs secrète en 18. Alors justement, la révolution russe, celle de février, en février 17, la révolution bolchevique à l'automne 17, et puis dès décembre 17, l'instauration de la Tchéka, la police bolchevique avec le début des purges, et puis des purges tous azimuts qui vont toucher tout le monde. Et c'est à ce moment-là, c'est après ce durcissement et ces grandes purges massives avec emprisonnement et puis assassinat. C'est quand même un moment où la révolution connaît un tour très difficile, que Tchoukine décide de quitter la Russie. Parce que pendant tout un temps, il n'a pas été ennuyé. Lunacharsky, qui sera nommé commissaire au département d'éducation. Et donc Lunacharsky défend Tchoukine, connaît Tchoukine, Trotsky connaissait Tchoukine, et son frère, notamment Ivan, qui était à Paris. Et il y a un grand respect pour son travail. Tchoukine est au cœur de la révolution en art, et tous les jeunes artistes autour de lui le défendent. Il y a un grand projet en 1900, entre 17 et 20, plutôt en 17-18, avant son départ, d'Acropole des Arts au Kremlin. Un projet de réunir au Kremlin toutes les collections d'art anciennes et modernes. Et Sergueï Tchoukine est partie prenante de ce projet, ce qui montre qu'il était prêt à accepter ce qui se passait, à trouver un terrain d'entente et à collaborer à un projet culturel avec ces nouveaux opérateurs, ces nouveaux décideurs mis en place par la Révolution. Donc son départ sera postérieur aux purges du début de 1918 et sera sa réponse, c'est-à-dire bon, il se met en retrait.
Des années qui ont précédé la Révolution ont été marquées par des mouvements littéraires, surréalistes, par, vous savez, la poésie, la musique, tout ça, c'était révolutionnaire en quelque sorte, parce qu'on a démoli quelque chose, on est sorti du classicisme, aussi dans l'art, partout. Alors la jeunesse, il y avait ceux qui étaient attirés par la politique, ils penchaient vers le socialisme, le marxisme. Et alors les autres étaient attirés soit par des choses purement littéraires, ou alors je vous dis mystiques, mais dans un sens révolutionnaire.
Il n'y avait plus rien à vendre, il y avait un énorme magasin d'œuvres d'art, librairie, œuvres d'art, d'Azziaro. et qui a été complètement vidée, et on a fait là-dedans un immense café.
Elsa Triolet.
Et c'est là que venaient les plus grands poètes de l'époque dire leurs vers. Avec, et ça a été décoré par des peintres futuristes, parce que le futurisme qui est né à peu près à cette époque en Russie était dans à son plein développement. La révolution était, entre autres, une libération de l'art. Il faisait tout ce qui, aujourd'hui, était à la mode à Paris, était déjà fait à l'époque. Par les peintres et les sculpteurs russes, comme par exemple la naissance du suprématisme, Malevitch, Statlin, Burluk, Larionov, Gonchirov, qui sont venus après.
Chagall est un peu à part. Chagall, il est à Vitebsk, il est commissaire à Vitebsk, il est envoyé là-bas, il crée une école populaire d'art. Il fait appel donc à différents artistes, dont en novembre 19, on fait appel à Malevitch. Il s'est trouvé qu'en retour de Moscou, les étudiants qui étaient tous des jeunes, très jeunes, ils avaient 16, 17, 18 ans, très jeunes, ils ont préféré quitter Chagall et sont allés vers Malevitch, qui leur paraissait plus audacieux. En 1917, la situation, il y avait trois groupes. Il y avait le groupe de droite, il y avait les gens du centre, et puis il y avait la gauche, l'art de gauche. C'était Malevitch, le suprématif, et c'était Tatlin. Les deux opposés, deux figures très opposées l'une à l'autre, ils accueillent la révolution. Tatlin fait tout de même en 1920 la fameuse tour à la Troisième Internationale, qui est, disons, le précurseur du constructivisme. Le constructivisme va naître l'année suivante. Et Malevitch, lui également, part pour Vitebsk. Il y a des expositions à Moscou. Il reste quand même la figure importante de ce mouvement.
En 1917, qu'est-ce que le régime attendait? Qu'est-ce que cet État attendait des artistes?
Au début, il y avait un ministre de la Culture qui était relativement libéral. C'était Lunacharsky. Il ne faut pas l'oublier, Anatoly Lunacharsky. Pendant 5 ans, il y a eu une liberté totale. Et c'est là, par exemple, fin 18, que déjà Malevitch, il disait, nous avons annoncé la révolution par notre art. Non, c'est la révolution artistique qui a précédé la révolution politique, ce que là, évidemment, les politiques n'ont pas accepté. Et il fait le blanc sur blanc, une série de blanc sur blanc. C'était des artistes libres, avec représentant un mouvement soutenu par des étudiants, soutenu par les courants, les différents courants, ont continué quand même à exister et pour pouvoir après donner des choses comme le constructivisme, alors qu'il va naître vraiment en 1921, la rénovation de l'enseignement, tout cela va se faire petit à petit à partir de là. Il y a eu une floraison de l'abstraction qui n'existe nulle part ailleurs. Depuis, justement, à partir du suprématisme, de la naissance en 1915, jusqu'au constructivisme, jusqu'en 1921, donc c'est pendant 5 ans, une floraison extraordinaire, unique d'abstraction totale en Russie.
Anna Cecilia Ornedo-Marine, est-ce qu'on sait à quel moment Diego Rivera décide de quitter la France et de rejoindre la Révolution mexicaine?
Oui, je pense que c'est à partir de 1917 qu'il commence ses enquêtes artistiques et aussi la Révolution russe et aussi la période où la Révolution mexicaine arrive à la fin de sa lutte armée. Il y a la Constitution mexicaine de 1917. C'est à ce moment-là que Rivera s'éloigne du monde parisien cubiste et de toutes ces critiques qu'il y a eu à son égard. Et il commence à réfléchir à la figuration et aussi à avoir une autre approche sur l'art, que c'est un processus qu'il fait grâce à son rencontre avec l'historien d'art Élie Faure. Il y a aussi tout un questionnement sur quelle éducation faire. Il faut dire que la révolution russe a apporté beaucoup au Mexique, à partir de Lunacharsky, pour mettre en route les programmes d'alphabétisation. Et c'est Lunacharsky qu'il va être la source d'inspiration pour José Vasconcelos. José Vasconcelos, c'est le ministre qui va devenir le ministre de culture au Mexique. Et que c'est grâce à José Vasconcelos et aussi à Pani, qui était le ministre des Affaires étrangères, qui vont formellement inviter à Diego Rivera à retourner au Mexique pour entamer ces reconstructions du pays, et il voulait aussi, il disait, voulait faire aussi la révolution dans son pays.
Parce que Vasconcelos a pensé, bien avant tout le monde, qu'il pourrait y avoir un art pour le peuple qui serait sur les murs. Et c'est pour ça qu'il envoie Siqueiros et Rivera en Italie pour étudier ce qui s'y passe dans l'art italien traditionnel et dans l'art de la fresque en particulier. Rivera, lui, s'en servira beaucoup lorsqu'il sera de retour dans son pays en 21-22 et qu'il se mettra à travailler sur les murs où il retrouve Orozco, qui lui n'a pas quitté le pays. Vasconcelos est un intellectuel, un philosophe, à qui on a donné momentanément du pouvoir dans le nouveau gouvernement de la paix étant survenue. Il pense que le peuple doit avoir accès à tout l'art. Le problème est que l'art a toujours été associé à l'argent et à la puissance financière. Un art qui ne peut pas être commercialisé, qui ne peut pas se vendre, qui ne peut pas s'acheter, serait donc, en principe, à la disposition du peuple. Si on peint sur les murs, on ne pourra pas transporter les murs. Et ça, donc, c'est son idée. Et il faut prendre l'exemple sur les églises médiévales où les gens entraient et pouvaient voir ces choses. Lui est un laïc, il ne s'occupe pas du tout de religion et de choses comme cela, mais il s'occupe de donner au peuple.
David Alfaro Siqueiros.
Nous avons une tradition merveilleuse d'art monumental. Nos temples, nos pyramides du période préhispanique. Et même dans les pays coloniaux, la peinture des grandes églises, dans l'époque espagnole, sont un art monumental. Nous sommes influencés par les impressionnistes français, et plus tard, nous avons dit, nous sommes influencés par les cubistes, par les différents bois de la peinture française. Nous devons retourner à notre grande peinture. C'est comme ça que quand nous avons parti pour la Révolution, ce qui est très intéressant dans son pays, nous avons parti pour la Révolution, pas seulement pour conquérir un gouvernement plus démocratique, mais pour trouver un art plus démocratique. Un art qui pourrait pas rester dans les salles de riches. Nous sommes pour l'art public, nous sommes pour un art avec un contenu humain. C'est plus important de parler dans une peinture monumentale que l'on fait toutes les grandes religions de l'époque passée.
Merci à Anne Baldassari, Mélanie Bouteloup, Serge Fauchereau, Anna Cecilia Ornedo-Marine, Jean-Claude Marcadet, Marija Pozorova et Alexandre Zumpf. Prise de son, Yann Fressy et Raymond Alboui. Archivina, Aude Vassan et Clarie Monac. Merci aussi à Marion Rivet. Mixage, Philippe Mercher. Les artistes, soldats de la Révolution. Un documentaire de Perrine Kervran réalisé par Ghislaine David.
Tienen también que morir.
artiste, soldat, révolutionnaire, poète ou collectionneur, LSD, c'est tout pour cette semaine. Et pour rester à Moscou, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster Villa Vassiliev ou nous réécouter à Mexico, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook, à la page France Culture Documentaire, et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Et la semaine prochaine, on range LSD au frais pour l'été et on se met au rythme estival avec l'heure du documentaire et la belle grille d'été de France Culture. Mais dans un instant, juste avant le journal de 18h, on retrouve Hervé Gardette.